soirée à tous. Merci d'écouter Radio Bonheur avec le magazine des déchaînés du football ce soir, puisqu'il est 19h03. Le magazine des déchaînés du football avec Gaëtan Pinel qui est avec nous au studio. Bonsoir Gaëtan.
Bonsoir Dominique, bonsoir à tous.
Pierre-Henri Dufay est avec nous également. Bonsoir Pierre.
Bonsoir Dominique, bonsoir Gaëtan.
Bonsoir.
Bonsoir à toutes et à tous.
Bon, alors des fortunes diverses comme bien souvent, mais là on en a pour tous les goûts. Hein.
Il y en a un qui a perdu et l'autre qui a vaincu.
Voilà, un match nul, une victoire, une défaite. Bon, heureusement le plus important c'était Brest quand même, puisque c'est la seule équipe où on n'était pas encore certain du destin, ce n'était pas encore complètement scellé pour les Brestois pour le maintien en Ligue 1. Maintenant, c'est fait.
Oui, c'est fait et de plutôt belle manière. Alors, c'est peut-être pas le meilleur match de la saison, ni la victoire la plus aboutie, mais arrivé à ce moment-là de la saison, on n'attend pas forcément qu'on ait le Barça ou le Man City de Guardiola hein, devant nous à Francis Leblay. Ça a été un match un peu à rebondissement, notamment au tournant des demi-temps. Mais il fallait la victoire impérativement pour arrêter les calculs, arrêter de regarder ce que font les uns et les autres. Voilà, le destin dépendait de Brest et ils l'ont magnifiquement fait hier face à Clermont. On va aller dans le vif du sujet, on va écouter tout de suite le résumé. Alors, le résumé est assez long, mais surtout par rapport au but, parce qu'il n'y a pas eu énormément d'occasions à part les buts hier à Francis Leblay.
C'est son 225e match avec Clermont, donc c'est quand même important. Attention, oula, cette première occasion avec la tête au second poteau. C'était qui ? C'était Vitesca qui était monté au second poteau, tête angle fermé dans le petit filet. Le bisou de certains supporters, Jackie, ont eu peur avec l'effet d'optique.
Ah ben oui, parce qu'il est rentré dans le but, mais pour le poxer à l'extérieur du filet.
Il y a une odeur de frites là qui arrive de la buvette. Vite, vite la mi-temps les amis, le centre. Ah, Belkebla qui intervient mal, Neto Borges dans la surface. La frappe et le but. Ah, on s'est trompé. Le mauvais positionnement défensif de la part des Brestois qui n'ont pas réussi à se dégager. C'est Neto Borges qui marque de manière trop facile au milieu du terrain, au point de pénalty, sans forcer presque. Le Brésilien qui marque son troisième but en Ligue 1 et qui permet à Clermont de marquer juste avant la pause. 1-0. Clermontois à l'entrée de la dernière minute du temps réglementaire de cette première période. Voilà, il manquait un but hein, ce match peut-être pour débloquer un peu l'affaire. Ça ne veut pas dire que c'est terminé pour les Brestois, loin de là, mais Konora qui frappe et qui égalise. Et qui égalise tout de suite, à peine 90 secondes après l'ouverture du score clermontois. Un but marqué presque tout seul par Konora sur un long ballon que tout le monde pensait perdu, mais non, il a amorti le ballon, il l'a caressé et il l'a allongé dans un tout petit angle pour tromper ou parer Njoko.
C'est très important, effectivement, juste avant la mi-temps.
Brest n'a pas douté longtemps, un partout. Ballon récupéré par Alès Melou. La bonne passe à l'estive. Oui, Steve Mounier en face à face avec Djoko qui vient glisser le ballon sous les jambes, entre les jambes du gardien clermontois. Il n'avait plus marqué depuis 6 matchs. Il a enfin retrouvé l'efficacité dans un style on le connaissait pas vraiment. Le face à face, l'un contre un, presque à marquer juste avant la pause et qui rescore juste après. 2-1. Le maintien est tout proche. Ouais, bien joué, la déviation en une de Belkebla pour ouvrir le chemin du possible à Camara et Mounier. Mounier sur la droite pour Konora. Oh, second poteau, pas de maintien.
Oh,
elle est ratée par Madi Camara. Jackie en fait tomber son micro. Dégagement loin devant, voilà, ça y est. Leblay peut se lever, Leblay peut exulter. Brest qui valide sa cinquième saison consécutive en Ligue 1. Ça a été dur à certains moments cette saison, mais Brest qui a été survolté par l'arrivée d'Éric Roy, transformé par l'arrivée d'Éric Roy, et Brest qui valide son maintien à la faveur d'une fin de saison canon à Leblay. Nouvelle victoire, la cinquième de suite, 2-1. Brest est en Ligue 1.
Ah oui. Et c'est bien pour Brest, parce que Brest en Ligue 1 a deux journées de la fin, deux matchs avant la fin, ça soulage quand même. Les autres années, c'était pas forcément aussi simple.
L'année dernière, ça a été relativement tranquille, mais c'est vrai qu'on a tellement eu le souvenir, on en a reparlé hier, hein, du match contre le PSG, la dernière journée en 2021, où l'Arseneur regardait la fin du match de Nantes sur son téléphone et s'était écroulé de bonheur juste devant son but. Ouais, c'était... C'est bien, surtout que le calendrier de fin de saison, c'est quand même pas l'un des plus simples pour Brest, on y reviendra dans un instant, mais l'heure était à la joie, à la communion avec les supporters. Ça a duré 10-15 minutes hein, hier avec notamment la tribune RDK, et après ça les joueurs sont rentrés au vestiaire, puis se sont présentés devant les médias. Écoutez le capitaine Brendan Chardonnay, très très satisfait.
Ouais, maintien assuré, maintien officiel. Voilà, on voulait se maintenir ici, devant nos amis, devant notre famille, devant nos supporters, devant les partenaires, devant la ville. On avait à cœur de se maintenir aujourd'hui, et c'est chose faite. Hein. Je pense qu'on est devenu un vrai groupe. On a vu tous les joueurs étaient là, étaient présents, les 25 mecs, et ça nous a tous tirés vers le haut. Et voilà, je pense que les équipes maintenant, on savent que c'est compliqué de venir jouer ici.
Ouais, c'est compliqué, ça fait 5 victoires consécutives hein, à Le Blé. Gaëtan, vous qui avez commenté une majeure partie de ces matchs-là. Voilà, on me l'a bien fait comprendre hein, quand je suis arrivé. On sait qu'un maintien, ça se joue à domicile, mais là, il y avait ça.
Plus les confrontations directes, on ne vous entend plus, Pierre. Oui, ouais, il y avait ça, plus les confrontations, c'est vrai. Auxerre, Nantes était dans cette série. Hein. Auxerre, Nantes, il y avait Toulouse, Nice et donc hier, Clermont. Il y a eu cet enchaînement en fait, qui a été parfaitement négocié. Alors des Brestois qui ont en plus réussi à prendre quelques points aussi à l'extérieur dans cette série-là, mais le fait de tout gagner à domicile, ça leur a permis de réaliser un bond assez incroyable, assez impressionnant. Et cette série-là, bah, c'est clairement celle qui sauve Brest de la relégation, parce qu'on se rend compte qu'avec 2 victoires de moins, bah, Brest serait dans le dur. C'est vraiment la grosse série que Brest attendait. Et la grosse série que les Brestois ont réussi donc à réaliser. On va d'ailleurs écouter à ce sujet Grégory Lorenzi, le directeur sportif du SB29, qui dresse un petit peu l'achèvement, le point final d'une saison qui aurait été pour le moins mouvementée.
Mais c'est sûr que parfois, comme je dis toujours, faut croire en ses joueurs, c'était important. Peut-être que tout n'est pas parfait, comme on l'a toujours dit, moi, premièrement dans mon travail. D'autres personnes aussi dans un staff, ben, faut aussi parfois se remettre en question. Et puis aujourd'hui, je dis ça parce que il y a des choses qui ont été dites et j'étais assez surprise, parce que quand on cherche des excuses, quand il n'y a pas de résultat, on essaie toujours de voir ce qui ne va pas à droite à gauche. Mais en tout cas, aujourd'hui, les joueurs ont montré qu'ils avaient le niveau pour jouer en Ligue 1. Voilà, on est quand même à 2 journées de la fin et ils se sont maintenus, et il faut leur tirer notre chapeau, parce que ça a été une saison avec des hauts et des bas, mais en tout cas au rendez-vous, ils sont présents.
Ouais, ils sont bien présents hein, les Brestois, avec notamment quelques hommes qui se sont distingués hein, sur cette deuxième partie de saison, sur ce rush là. Évidemment Jérémy Ledouaron, qui n'a pas marqué hier d'ailleurs, c'est pas bien ça hein, il est habitué à marquer tout le temps maintenant.
C'est vrai que c'était les 7 dernières titularisations où il était buteur. Il a été un peu moins présent que ses partenaires, mais bon, un maintien, ça se joue pas à une seule personne. On a bien vu Honora et Mounier qui ont retrouvé un petit peu de la confiance. Honora sur les derniers mois, Mounier qui n'avait plus marqué depuis 6 matchs. Donc voilà, ça a été aussi une victoire collective hier. Il y a d'autres joueurs qui se sont manifestés. Hein. Lesmelou qui a eu une super note, Duverne qui a fait un excellent match aussi et qui est d'ailleurs dans l'équipe type du journal L'Équipe aujourd'hui. Donc ça a été vraiment une victoire collective dans un match aux deux visages, parce que Clermont a quand même fait une belle impression pendant une demi-heure. Brest ne voyait pas beaucoup le ballon, et puis finalement Brest qui a réussi à revenir dans ce match, dans le contenu mais aussi dans le scénario, parce qu'il s'est écoulé, j'ai calculé tout à l'heure, 1 minute et 20 secondes entre l'ouverture du score de Clermont et l'égalisation de Brest. On pense et on a une grande pensée aujourd'hui pour les personnes qui sont parties à la buvette à ce moment-là, parce qu'il y en a qui sont parties à la buvette avant le but de Clermont et qui, je pense, ont tout raté. Donc ça a été vraiment un bon scénario aussi pour les Brestois de ne pas être menés à la pause. Brendan Chardonnay revenait sur ce match-là, ces deux visages-là montrés aujourd'hui face à une équipe de Clermont qui était en pleine forme.
Ouais, alors Clermont reste une très belle équipe, c'est pas pour rien qu'ils sont 8e. Ça joue bien, ça anticipe bien les coups, donc c'est une très belle équipe. On savait qu'on allait pouvoir se faire secouer. Alors c'était pas l'entame de match qu'on souhaitait, parce qu'on voulait mettre la pression tout de suite, mettre beaucoup d'intensité. Maintenant on est tombé sur un peu plus fort que nous durant les 30 premières minutes. Mais quand c'est comme ça, on a réussi à faire le dos rond. Et je pense que la chance qu'on a aussi, c'est qu'on égalise tout de suite après le but encaissé. On n'a pas eu le temps de douter, on n'a pas eu le temps de tergiverser. Et ça, je pense que c'est une force. Et eux, ça a pu les faire douter.
Ouais, complètement. Et le fait de ne pas rentrer au vestiaire mené, ça a pu peut-être avoir un effet psychologique hein, sur l'équipe de Brest. Parce que forcément, Gaëtan, quand vous prenez un but dans ce match-là, juste avant la pause, sans avoir été grandement mis à contribution par rapport à, on pense à Bizot, hein, on parlait de la grosse domination de Clermont, mais on n'a pas vu de Big Bizot hier, on n'en a pas eu besoin. Ça pouvait aussi inverser un peu l'effet émotionnel de ce match.
Ouais, ça pouvait, disons que sur ce match-là où Brest avait son maintien à valider, ça pouvait mettre une sacrée épine dans le pied quand même, surtout que Clermont, on l'a dit, c'est une équipe qui à l'extérieur est très solide. Elle a gagné 7 matchs à l'extérieur, cette équipe de Clermont, sur la série de 8 matchs me semble-t-il avant de venir à Brest, c'était la meilleure de Ligue 1 avec 7 victoires, 1 nul. Donc ouais, ça aurait été compliqué, surtout que les Brestois ne sont plus tellement habitués à être chahutés finalement à domicile. D'une manière générale, déjà ils sont relativement souvent devant au tableau d'affichage maintenant, même à l'extérieur. Il y a des matchs où ils mènent quand même. Et puis à domicile, c'est vrai qu'ils sont habitués maintenant à prendre les devants assez rapidement. Là, ça a été le cas en début de deuxième période. Mais oui, être mené à la mi-temps, peut-être qu'il y aurait eu un petit peu de doute quant à la suite, enfin non pas la suite à donner au match, mais la façon dont les Brestois auraient abordé la seconde période face à cette équipe clermontoise très bien organisée. Un match aux deux visages, c'est également ce qu'explique Brendan, c'est ce qu'on vient d'écouter, pardon, c'est le fait que les joueurs aient désobéi à Eric Roy. Ce sera juste après la pub.
Pas d'erreur, vous êtes sur Radio Bonheur.
Il était une fois, dans leur nouvelle petite maison, un jeune couple fraîchement installé, cherchant à faire des économies sur des produits tout frais, eux aussi. Allez donc voir du côté des melons charentais à 2,29€ la pièce chez Aldi, leur proposa la voisine d'à côté. Eh, bien vu la voisine. Aldi, place aux nouveaux consommateurs. Dès demain chez Aldi, origine France, Maroc ou Espagne, offre valable du mardi 23 au samedi 27 mai, info sur aldi.fr.
Bonjour, je m'appelle Boris, je suis expert solutions énergétiques EDF pour les entreprises. En ce moment, beaucoup de clients me demandent comment réduire l'empreinte CO2 de leur entreprise. Ils savent que c'est important pour la planète et leurs factures. Ils veulent passer à l'action. Alors avec notre offre Décarbone, nous programmons ensemble une visite qui les éclaire sur leur impact CO2 et je leur propose des solutions adaptées à leur entreprise. Mieux pour le climat, mieux pour la facture.
EDF. Plus d'informations sur edf.fr. L'énergie est notre avenir, économisons-la.
Leclerc. Alors, du café moulu classique pour le matin, de l'espresso pour le midi et du déca pour le soir.
Dis donc, t'es une pro du café.
Ah bah chez Leclerc, pour l'achat de 2 paquets de café moulu carte noire de 250 grammes, le troisième est offert, alors...
Attends, un paquet de café offert pour 2 achetés?
Oui.
Trop bien.
Mais je suis aussi une pro des bons plans.
Oh, je t'adore.
Tout ce qui compte pour vous existe à prix Leclerc. Du 23 mai au 3 juin, modalité magasin et drive participant sur www.e.leclerc. Pour votre santé, bougez plus.
Bon, on a un problème là. Les clients arrivent et je trouve pas le terminal de paiement.
Tiens, prends mon téléphone.
Pourquoi faire ?
Bernard ?
Oui ?
C'est le Crédit Agricole. Pour vous dire qu'avec Up2Pay Mobile, vous pouvez désormais encaisser les achats de vos clients directement avec votre téléphone.
Ah bon ? Et on a Up2Pay ?
Up2Pay Mobile, oui papa. Sur mon téléphone.
Up2Pay Mobile, la nouvelle solution d'encaissement avec votre téléphone du Crédit Agricole.
Disponible sur Android, soumise à conditions réservées aux professionnels sous réserve d'acceptation. Info sur crédit-agricole.fr.
L'idée
Lidl, réélu encore et encore meilleure chaîne de magasins de l'année dans la catégorie fruits et légumes.
Allô patron ? Ah, ils ont encore la grosse tête ici.
Lidl ? Ils ont le melon, c'est ça ?
Ah non, là c'est la pastèque patron. En ce moment, ils envoient du lourd hein. 3,99€ la pastèque sans pépins.
Ah bah du lourd en effet. Et pour nous, ça crée pas ta caisse la pastèque. À moins de 4€ la pièce ?
Là, c'est vous qui êtes lourd patron hein, parce que moi ça me fait pas rire la pastèque à 3,99€.
Tu sais quoi ? On fait pas le poids.
Lidl, trop fort sur les prix depuis 13 ans et c'est vous qui le dites. Étude Kantar Prométhée Cancet 2022, catégorie 1, origine Espagne. Plus d'informations sur lidl.fr.
Choisir Renault Mégane E-Tech 100% électrique, c'est choisir un véhicule assemblé en France, à Douai, au cœur de Renault Electricity, qui emploie déjà 4000 personnes et qui va créer 700 nouveaux CDI d'ici 2024. Renault Mégane E-Tech 100% électrique, 0 g de CO2 par kilomètre, borne de recharge et installation offerte. Moins d'émissions de CO2, plus d'emplois en France.
0 g de CO2 lors du roulage hors pièce d'usure versus véhicule thermique. Borne et installation dans la limite de 1 900 €, offre à particulier du 1er au 31 mai si accordiaque, voire Renault.fr. Pour les trajets courts, privilégiez la marche ou le vélo.
Chez Domino's, jusqu'au 28 mai, c'est la Mega Week. Toutes les pizzas médium à emporter sont à 4,99€ avant 16h et à 5,99€ après. Profitez de nos savoureuses pizzas. Dépêchez-vous, c'est jusqu'au 28 mai.
Domino's.
Offre non cumulable, hors supplément et ou modification dans les magasins participants, voire conditions sur dominos.fr. Mega Week égale semaine de folie. Pour votre santé, bougez plus.
Donc, si je résume un peu la visite de l'appartement. Surface, on est bon.
Ok.
Exposition, sud.
Nickel.
Deux chambres.
Parfait.
Budget.
Ah, je sens que c'est là que ça va coincer.
Eh non, avec la forêt, le budget aussi s'est validé.
Chez La Forêt, trouver un bien à la taille de votre budget, c'est possible. Jusqu'au 30 juin, découvrez les prix bleus des biens à prix ajustés. Profitez-en vite en agence ou sur laforêt.com.
Chaque agence est juridiquement indépendante. Voir conditions sur laforêt.com.
Et vous, Michel, pourquoi avoir choisi Vérissure ?
Pour profiter de la retraite. On part souvent en week-end pour rendre visite aux enfants. Le seul bémol, c'était de laisser la maison sans surveillance. On a donc fait installer l'alarme Vérissure et on sait que la maison est protégée, qu'on soit là ou pas.
Confiez votre sécurité à Vérissure, le numéro 1 français élu produit de l'année 2023. Rendez-vous sur Vérissure.fr pour un devis gratuit. Un service opéré par Vérissure, société agréée CNAPS.
Allez, le magazine des chaînes et du football, 19h19. On continue de parler de Brest et de son maintien assuré maintenant en Ligue 1.
Oui, et ça a été une sorte de... Les Brestois ont désobéi à leur coach hier et ils n'en étaient pas peu fiers parce que lorsqu'il est arrivé en début d'année civile, Eric Roy, au mois de janvier, il avait promis à ses joueurs qu'ils arriveraient à se maintenir, mais sans doute à la dernière journée. Et écoutez Brendan Chardonnay, la question portait au départ sur est-ce que le capitaine a fait un discours à ses troupes après le match ? Écoutez, non, c'est plus le coach qui a parlé et qui a félicité ses joueurs d'une certaine manière.
Capitaine, il n'a pas parlé, le coach a parlé, moi j'ai déjà parlé assez pendant 90 minutes, donc le coach a parlé, voilà, fier, une fierté. Voilà, le coach s'était trompé, il pensait qu'on allait devoir se battre jusqu'à la dernière journée. Nous, on lui avait dit dès le départ qu'on comptait se maintenir les deux dernières journées, parce que je veux le maintien contre Marseille et contre Rennes. On savait que ça aurait pu être très compliqué. Donc on lui avait dit que le maintien serait fait avant les deux derniers matchs. Il y croyait pas, mais on l'a fait mentir. Donc il a un peu ironisé là-dessus.
Ouais, ben heureusement, parce qu'effectivement, ça aurait pu être compliqué contre Marseille, qui est en pleine course à la Ligue des Champions, même si y a un break qui a été fait hein, ce week-end par Lens. On y reviendra avec Gaëtan. Et puis Rennes, qui s'est, lui, par contre, complètement relancé dans la course à la Coupe d'Europe tout court. Donc ça, c'est fait. Maintenant, on peut, avant de parler de la suite et de se projeter sur l'avenir, parler quand même de la réussite du choix d'Éric Roy, enfin du choix de prendre Éric Roy dans cette formation brestoise, parce que franchement, c'était pas forcément gagné. Écoutez la satisfaction hier du directeur sportif Grégory Lorenzi.
J'ai voulu prendre mon temps. Encore une fois, faut pas penser qu'il y avait pléthorie d'entraîneurs sur le marché. Faut pas penser que beaucoup d'entraîneurs souhaitaient aussi entraîner à Brest. Il y avait peut-être beaucoup d'entraîneurs qui voulaient venir, mais peut-être pas aussi forcément ceux qu'on souhaitait. Et Eric a su recréer du lien dans le groupe. C'était important de redonner aussi de la confiance dans l'équipe, de la sérénité aussi dans le travail. C'est ce qui a été fait. Et puis petit à petit, il a réussi à... Voilà, il s'est mis un petit peu en mode guerrier pour aller chercher nos points et je pense qu'on fait quand même une très belle deuxième partie de saison. Avant le match, je pense qu'on était 11e et aujourd'hui, ça veut dire quand même pas mal de choses dans le sens où l'équipe et le groupe avaient de la qualité pour exister en Ligue 1. Il a démontré aujourd'hui, donc c'est très bien. Il faut aussi y croire. Voilà, et je pense qu'il a su aussi croire en ses joueurs et qu'il en donnait beaucoup sur le terrain. Et aujourd'hui, donc, c'est un grand bravo au staff. Quand je parle du staff, je parle aussi ceux qui ont géré l'intérim parce que c'était aussi important et pas évident pour eux de remobiliser tout le monde. Et force est que collectivement, l'ensemble du club a réussi à sa mission. Et on est très content, comme je disais, parce qu'on va redécouvrir encore une saison en Ligue 1 l'année prochaine. Ça nous permettra, avec notre public, nos partenaires, avec tout le monde, de pouvoir justement encore avancer.
Oui, avancer. Et Brest l'a fait très vite durant cette deuxième partie de saison, parce que sur les matchs retour, Brest est dixième du championnat. Même mieux, quand on regarde les six derniers matchs, Brest est troisième du championnat. Donc c'est d'une part, c'est une belle fin de saison, mais Gaëtan aussi, c'est la réussite du pari de Greg Lorenzi. Eric Roy le disait hier, c'est vrai que c'était un choix quand même un peu risqué. Ça a été payant malgré beaucoup, beaucoup d'interrogations.
Oui, c'est ça, des interrogations justifiées forcément, parce que il pouvait y avoir des doutes sur Eric Roy en raison qu'il n'y avait pas du tout de référence depuis 10 ans sur Eric Roy. Donc on pouvait se demander, est-ce le bon choix ou pas? Alors on pouvait se dire, d'un côté il y a de la fraîcheur parce que c'est un coach qui va arriver peut-être avec des idées un petit peu nouvelles, avec une vraie volonté aussi de remettre la main à la pâte au niveau de son métier, et d'un autre côté il y avait aussi le fait, bon, qui n'est pas coaché depuis 10 ans, et le fait qu'il ne coche quasiment aucune case des points qui avaient été annoncés au départ par Grégory Lorenzi. Qu'est-ce qu'il voulait, Grégory Lorenzi? Il voulait un jeune coach. Eric Roy, il a 55 ans, donc quand il a signé, donc la case n'était pas remplie. Un coach qui s'installe sur le long terme, il a signé pour 6 mois. Alors peut-être sera-t-il prolongé, mais dans l'idée, quand il a signé, il a signé pour 6 mois. Et il me semble qu'il y avait une autre condition qui n'était pas remplie, mais
maintenir Brest.
Alors si celle-là, du coup, je crois que c'était un coach qui avait, un coach qui avait pas trop d'expérience. Bon, là pour le coup, elle était remplie celle-là, parce qu'il n'avait pas beaucoup entraîné, hein, seulement un an et demi à Nice, mais. Bon, c'est vrai que par rapport à ce qui avait été annoncé lorsque Michel Darzakarian a signé et le profil qui a été choisi, Eric Roy, 3 mois plus tard quand il est arrivé, c'est vrai que ça pouvait quand même laisser quelques doutes. Mais après, c'est pas pour ça que Eric Roy ne pouvait pas réussir sa mission, et en effet, il a parfaitement réussi, et il a vraiment une ligne de conduite tout au long de ce passage-là. On ne l'a pas vu changer son fusil d'épaule à maintes et maintes reprises. Non, il a une ligne de conduite dès le départ, avec la volonté de prendre beaucoup moins de buts. Et ça s'est vu dès le match contre Lille en championnat, son premier match de Ligue 1 avec Brest, 1-0-0 à Le Blé. Et à partir de cette solidité retrouvée, il a construit ensuite une équipe de plus en plus pétillante, je ne sais pas si c'est le mot, mais en tout cas de plus en plus agréable à voir jouer, parce qu'on avait vraiment vu de bons matchs à Brest, notamment à domicile sur les derniers mois, deux derniers mois notamment, cette série de 5 victoires.
Ouais, parce qu'il y a quand même une grosse série aussi sans victoire à Francis Leblay, hein, pendant des mois, il ne faut pas l'oublier, cet hiver, ça a été bon.
De la première journée, du début de la saison jusqu'à cette série de 5 victoires, il n'y en avait eu que 2 à domicile en... ça devait faire 12-13 matchs. Hein. 2 sur les 12-13 matchs, une contre 3 avec 2 buts sur pénalty. Et une contre Angers, mais bon, Angers qui perd tous ses matchs. Alors il fallait les gagner, hein, ces matchs, parce qu'à l'époque c'était des concurrents au maintien, donc c'était très important comme victoire, mais c'était tout. Et on se souvient qu'on avait eu un de nos camarades de Brest-Tonnerre qui nous disait, on a gagné, je crois qu'on l'avait eu, nous disait, on a gagné que 2 fois en 13 matchs, quelque chose comme ça, à domicile, donc c'était compliqué, mais Brest en effet a redressé la barre,
s'est réveillé,
et même à l'extérieur où il y a eu des bonnes prestations, on se souvient du match à Reims.
19h26, on le rappelle, donc Brest qualifié, maintenu deux journées avant la fin en Ligue 1 la saison prochaine. Place aux Merlus dans le magazine des déchaînés du football, les Merlus qui malheureusement ont perdu contre un gros de ce championnat, contre Lens.
Radio Bonheur, parle-en à ta sœur.
Un sentiment de frustration.
Non, ça vient. Le résumé d'abord de ce match.
Défaite 3-1 hier face au Racing Club de Lens. Et on va évidemment donc commencer cette partie lorientaise par le résumé de ce Lorient-Lens.
Attention, la relance manquée. Fèvre qui a gratté le ballon dans les pieds du gardien. Le centre et le but de Romain Fèvre. Quelle erreur sur cette balle en retrait vers Brice Samba, et le président Messing l'orienter, exercé par Romain Fèvre, qui permet à l'ancien Lyonnais eh bien, de rabattre le ballon dans la cage. L'angle était presque fermé, il a trouvé ce qu'il fallait, le trou de souris nécessaire pour battre Brice Samba. Lorient mène 1-0 face au Dauphin de Ligue 1 grâce à Romain Fèvre. Il y a du monde dans cette surface de réparation au point de pénalty. On en a de la tête, il y a Medina. Oh, et l'arrêt d'Yvon Bogo, alors que ce ballon avait été repris aussi par Openda. Sotoka, 20 mètres, Sotoka, frappe contrée, but. L'égalisation lensoise, l'égalisation de Florian Sotoka, la frappe contrée à l'entrée de la surface qui trompe Yvon Bogo. Et ouais, le rebond qui trompe le gardien lorientais et Sotoka qui vient marquer son 7e but de la saison, le 3e face à Lorient parce qu'il en avait marqué 2 au match aller. Attention à ce centre, oh, la reprise, non, il la rate, Dever Machado, Fofana qui se met sur son pied gauche et il va perdre le ballon ensuite dans la surface devant Kaloulou, mais il y a eu un très bon centre, oh, bon, la perte de balle, but, oh, le but de Thomasson, oh, quelle erreur de la défense lorientaise qui rend l'appareil au Lançois après le but de Fèvre tout à l'heure, erreur, mésentente dans la surface entre Kaloulou et Mbogo, et c'est Thomasson qui vient marquer le 2e but lançois. Kaloulou là qui est réconforté par ses partenaires, il a raté sa passe vers son gardien, Thomasson l'a récupéré dans les 6 mètres et il a trompé le gardien Mbogo, ça fait 2 buts à 1. Et pas de faute de Lefebvre sur Medina, contre-attaque pour les Merlus. Allez, Enzo Lefebvre, l'accélération, il y a l'appel de Koné, il y a celui de Kaloulou d'abord qui est servi. L'appel à l'opposé de Fèvre, il a vu le centre vers Romain Fèvre, balle de 2-2, la reprise, Koné là, le ballon contré dans les 6 mètres. Quel altruisme au départ de Romain Fèvre pour remettre ce ballon à Koné. Koné qui tente d'enchaîner, mais il y a le retour de Gradit, le défenseur lensois, qui empêche Koné eh bien de marquer. On en reste à 2-1, mais énorme occasion pour les Merlus. Innocent, il peut pas aller bien loin parce qu'il y a Fofana devant lui. C'est intelligemment laissé par Fèvre pour Aberger à côté. La frappe au 25 mètres du capitaine lorientais qui aurait été récompensé d'un sublime but pour sa 100e en Ligue 1 s'il avait trouvé le chemin du cadre. Elle était puissante cette frappe. Enzo le fait, la tête sur la ligne de Brice Samba, l'arrêt réflexe. Voilà pourquoi ce gardien est nommé parmi les 5 meilleurs de la saison et en lice pour avoir le titre de meilleur gardien de Ligue 1.
Incroyable.
Et ouais, il sauve les siens et là l'arrêt il est énorme. Mais le contrôle est manqué de la part de Makengo et la contre-attaque lançoise avec ce ballon vers Fulgini. Fulgini sur le côté gauche, le centre. Attention à Fofana et le troisième but lançois. Et c'est Seko Fofana qui vient éteindre tout suspense dans cette fin de rencontre et sans doute, ou très probablement maintenant, offrir la deuxième place de cette Ligue 1 au Racing Club de Lens. Les Merlus ont beaucoup bataillé, ont beaucoup donné, auraient mérité d'égaliser. Mais c'est Lens finalement qui vient tuer le suspense. 3 buts à 1 à la 87e.
Opportuniste là, les Lensois sur cette seconde période. Ouais, les Lensois qui s'imposent 3 buts à 1, somme toute un score un peu sévère pour Lorient.
Oui, au vu de la première mi-temps, bon, si Lens avait continué comme ça, ça aurait été logique. Mais c'est vrai que les Merlus ont livré une bien meilleure seconde période. Lens s'est un petit peu éteint par moment. On a vu une équipe aussi de Lorient hausser le ton dans l'agressivité. Hein, notamment, ils ont été bien meilleurs à la récupération avec l'entrée en jeu de Jean-Victor Makengo, même si c'est lui qui perd le ballon sur le troisième but au départ de la situation. Les Merlus qui, c'est vrai, espéraient mieux avec cette seconde de mi-temps, était même assez proche d'égaliser un temps juste avant ce troisième but du Racing Club de Lens signé Seko Fofana. On écoute le gardien Yvon Bogo.
Wow, sentiment de frustration parce que par rapport au match aller où c'était clairement dominant, ils ont clairement mérité leur victoire. Aujourd'hui, il y avait la place. Il y avait la place pour faire quelque chose ici à la maison, surtout en deuxième mi-temps où on est revenu avec des très bonnes intentions. On avait beaucoup plus la possession. On a su se montrer dangereux, mais malheureusement, on n'a pas su concrétiser. Mais c'est vrai que ce sentiment de frustration qui prédomine aujourd'hui.
Oui, la frustration forcément, parce que avec cette seconde mi-temps, ben, Lorient aurait pu revenir à 2-2. On pense à l'occasion de Laurent Abergel, on pense à celle au pluriel de Koné, et notamment ce gros arrêt aussi, hein, de Brice Samba à la retombée d'un corner. Bon, Lorient a poussé, Lorient s'est montré plus juste aussi techniquement pour tenter de revenir dans ce match. Problème, c'est qu'il y a eu beaucoup trop d'erreurs en fait dans ce match pour que Lorient le gagne ou au moins accroche Lens. Il y a l'erreur tout d'abord de relance de Mvogo sur l'égalisation, parce qu'il relance dans l'axe sur un Lensois, et en deux passes les Lensois se retrouvent en position de frappe, la frappe de Sotoka contrée par Talbi. On joue un peu de malchance en plus sur l'occasion, là côté lorientais, ça fait un partout. Ensuite, c'est une erreur de relance de Kaloulou dans ses 6 mètres qui donne le ballon à Thomasson, ça fait 2-1. Et puis sur le troisième, c'est une perte de balle de Makengo, alors à 70 mètres de son but. Et la contre-attaque, elle est chirurgicale, aucun lorientais ne parvient à intervenir. Et ça amène le troisième but. Trop d'erreurs, c'était le sentiment d'Arlin Yongwa après le match.
Non, on marque le premier but, on prend la confiance, mais le truc c'est qu'après on prend pas... Les deux buts, ben parce qu'on prenait le bruit, c'est parce qu'on fait deux erreurs. Et après, c'est vrai qu'en faisant deux erreurs face à l'équipe, ça se paye cash. Après, c'est vrai que voilà, ils ont commencé à avoir la possession. On a essayé de gérer pour finir bien la première mi-temps. Et après, on est revenu avec des nouvelles intentions qui ont plutôt bien marché.
Oui, de nouvelles intentions qui auraient pu permettre à Lorient de revenir dans ce match. C'est vrai que Pierre, quand on a une équipe comme ça de Lens aussi forte, quand on commet la moindre erreur, bon, c'est compliqué. Enfin, quand on commet plutôt une succession d'erreurs, c'est difficile d'imaginer revenir dans les matchs.
Ben, on a l'impression que c'est les trois mêmes buts dans cette rencontre. C'est très étonnant parce que, surtout le deuxième... Lorient s'est fait avoir à son propre jeu. Ouais. Toute la saison, on a vu les Lorientais ressortir, avoir un jeu très léché. On l'a souvent noté ici, sur cette antenne. Mais il y avait bien un moment où ils allaient faire une erreur. Et quand vous ressortez comme ça, forcément, ça se voit beaucoup plus.
Ouais.
Et l'erreur, elle est terrible de Kaloulou. On se dit, c'est pas possible. Et même lui, je pense qu'il a dû y repenser 150 fois cette nuit avant de s'endormir, s'il a dormi. Mais ça doit pas exister. Je pense que là, d'ici la fin de saison, il dégagera tous ses ballons en touche ou au pire en corner. Mais oui, là, c'est
ouais,
c'est
puis
pas
dans
permis.
Cette position-là, dans les 6 mètres, sous pression, c'est vrai que c'est assez curieux quand même comme choix. Même si on veut relancer propre et court... pas non plus toujours abuser. C'est vrai que Lorient avait été pris à ce piège-là, on se souvient, contre Paris et contre Troyes aussi, hein, lors de la phase aller. Il y a eu ces deux matchs-là où il y avait eu des erreurs de Mvogo et de Talbi. Bon, là, c'est Kaloulou cette fois qui a immédiatement été réconforté par ses partenaires après le but de Thomasson. Mais malgré ces erreurs, on aurait pu, du côté de Lorient, espérer un petit peu mieux quand même. Il y a eu notamment ce rapport de force qui s'est inversé en seconde période. C'était notamment le sentiment aussi de Régis Lebris après le match.
On est resté ambitieux, on n'a pas lâché le morceau, on s'est dit, on a pris aussi des risques défensifs en faisant de l'homme à homme et en étant sur la corde raide, mais en étant tout le temps dans une ambition de jeu, et on a réussi à faire basculer ce rapport de force. Et donc il est de, à mon avis, d'une dynamique double. C'est à la fois notre ambition et puis aussi Lens qui ne peut pas maintenir un niveau d'intensité comme celui-ci pendant 90 minutes, c'est impossible. Et donc c'était notre mérite que de réussir à faire basculer ce rapport de force, mais ça n'a pas été suffisant.
Non, ça n'a pas été suffisant pour faire basculer le match, mais c'est vrai, hein, l'entrée de Makengo a fait du bien lorsqu'il a remplacé Monke Innocent. On pense aussi à Darlin Yongwa qui a eu un peu plus d'impact offensivement en deuxième mi-temps. Koné qui s'est beaucoup battu devant. Alors, il a manqué deux occasions, il en a même trois parce qu'il y en a une grosse en première période. Et ça a été un match compliqué pour lui globalement, mais il s'est battu. On ne peut pas lui reprocher ça. Et notamment sur la deuxième mi-temps où... Dans cet esprit de combativité, les Merlus ont clairement élevé le curseur pour la centième, hein, de Laurent Abergel d'ailleurs en Ligue 1, le capitaine qui a été forcément hier ovationné aussi lors de sa sortie en cours de match par les supporters du FC Lorient. Deuxième page de pub dans ce magazine, et puis on revient sur ce Lorient Lens.
Une petite pause, à tout de suite.
Vous nous êtes fidèles chaque jour pour la musique, l'info, la proximité. Tout cela n'est pas prêt de changer. En revanche, ce qui change, c'est la technologie pour nous écouter. Désormais, nous vous retrouvons aussi en DAB+. Le DAB+, c'est la radio qui fait sa révolution numérique avec une qualité optimale et des services nouveaux. Alors n'attendez plus, un poste DAB+. En voilà une belle idée de cadeau. J'aime ma radio en FM. Je vais adorer l'écouter en DAB+.
Vous pouvez déjà écouter Radio Bonheur en DAB à Nantes, Saint-Nazaire, Pornic, La Roche-sur-Yon, Niort, Châtellerault, Poitiers, Angoulême, La Rochelle, Saintes, Rouen, Le Havre, Pont-l'Évêque, Caen et Paris-Île-de-France. Et bientôt, cet été, à Angers, Cholet, Saumur, Brest, Morlaix, Quimper, Lorient, Guingamp, Lannion, Châteaulin, Fougères, Saint-Brieuc, Dinan, Vannes, Ploërmel et Rennes. Retour du magazine des déchaînés du football, 19h38, toujours avec les Merlus pour ce magazine.
Oui, les Merlus battus 3-1 par le Racing Club de Lens hier au Moustoir face au Dauphin du Paris Saint-Germain. Et pourtant, la deuxième mi-temps, on le disait, était d'un meilleur acabit. On a eu une équipe plus agressive, plus entreprenante, plus juste aussi. C'est vrai, Lens a un petit peu baissé le ton en termes d'intensité et de pressing, mais on pouvait espérer mieux du côté de Lorient parce que les Merlus ont réussi à déjouer aussi d'une certaine manière cette intensité lensoise. Écoutons Yvan Vogo.
Le coach a eu des mots forts quand même à la mi-temps. Il nous a dit de continuer à jouer, qu'il ne fallait pas qu'on se cache et que ce genre de match justement va nous servir à grandir et qu'en deuxième mi-temps, il fallait qu'on joue notre football, qu'on ne déjoue pas. Et c'est ce qu'on a su très bien faire en deuxième mi-temps parce qu'on a vraiment vu que dès le coup de sifflet, on a vraiment vu qu'on a voulu mettre des bonnes intentions, surtout jouer vers l'avant. Et ce qu'on a su faire, malheureusement, Lens nous a coupé l'air sous le pied, comme on dit, dans un moment où on pousse pour revenir dans le match. Ils mettent le 3, ce qui vraiment nous tue complètement aussi, que ce soit dans la tête ou même dans les jambes. J'ai pu voir mes coéquipiers, tout le monde à la tête baissée, et c'est vrai qu'ils ont été chirurgicaux.
Ouais, chirurgicaux, et notamment en deuxième mi-temps, parce que la seule occasion lensoise en deuxième mi-temps, c'est le but hein, de Seko Fofana sur cette contre-attaque où d'ailleurs Alexis Claude Maurice s'est parfaitement effacé suite au centre de Fulgini pour laisser ce ballon à Fofana qui a donc battu Mvogo dans la foulée. Les Lorientais qui ont affronté trois fois le FC Lorient cette saison, deux fois en championnat, une fois en coupe, ils ont concédé 9 buts au total, 5 à l'aller, 3 au retour, 1 en Coupe de France, éliminé d'ailleurs en Coupe de France. Ils ont perdu donc les trois matchs. Et pour autant, si on regarde ce troisième match, c'est pas là que Lens a été le plus impressionnant. La première mi-temps, oui. La deuxième, beaucoup moins. C'est ce qui laisse quelques regrets au gardien à nouveau, Yvan Mvogo.
Incroyable, ouais. Incroyable. C'est vrai que le premier match là-bas à Lens, j'avais l'impression qu'ils attaquaient à 20. Ça venait carrément de tous les côtés. Comme je l'ai dit aujourd'hui, ils ont vraiment été chirurgicaux. J'ai pas vraiment eu l'impression qu'ils ont eu une domination incroyable sur nous. Par en premier temps, ils ont vraiment étouffé, vu qu'ils savaient très bien que nous, on a des joueurs au milieu de terrain, on essaie de jouer proprement, on essaie de sortir proprement, ils nous ont étouffé. Mais c'est vrai qu'en deuxième mi-temps, on a vraiment su jouer notre jeu et on l'a très bien vu. Qu'on aurait pu marquer ce deuxième but qui nous aurait fait revenir dans le match. Malheureusement, c'est le RC Lens. C'est pour ça aussi qu'ils jouent le haut du tableau. Ils ont su gérer leur avance et voilà, félicitations à eux.
Ouais, c'est la marque de fabrique aussi des équipes qui sont en tête, qui ont une maîtrise supérieure hein, à celle de Lorient. Et d'ailleurs, on reviendra dans la rubrique de demain sur ce que les Merlus ont à apprendre d'une équipe comme Lens. Parce que c'est vrai qu'il y a une certaine destinée un peu commune entre Lorient et Lens. Les deux clubs sont montés en même temps lors de la saison Covid hein, qui s'était arrêtée en mars 2020.
Les deux coachs se connaissent très bien.
Les
aussi.
Deux coachs voilà, se connaissent très bien. Ils ont travaillé ensemble à Lorient. Ils se sont connus aussi à Rennes.
Parce qu'ils avaient une coupe.
Ah, c'est vrai, peut-être.
Rasé de près. Je sais pas, mais.
C'est bien possible. Temps. J'ai pas pensé à poser la question en zone mixte, mais voilà, ça aurait pu être un élément de rubrique.
C'est la question qu'il fallait poser en fin de saison.
Mais en tout cas, voilà, les deux clubs qui sont montés en même temps, des coachs qui se connaissent très bien, qui ont une philosophie de jeu qui se rapproche quand même. D'ailleurs, Lorient joue maintenant sur le même schéma tactique aussi, par exemple, que le Racing Club de Lens. Les deux clubs n'ont pas connu la même trajectoire lorsqu'ils sont montés, parce que Lorient a joué pour le maintien pendant que Lens a été deux fois septième et va maintenant terminer sur le podium. Mais il y a une forme de progression quand même dans les deux clubs aussi. Lorient a signé une saison plus aboutie cette année. Et voilà, c'est peut-être l'exemple, en tout cas la source d'inspiration du FC Lorient, que cette équipe du RC Lens, ça peut en faire partie dans cette Ligue 1. Les Lorientais qui, malgré cette défaite, restent dixième parce que, un petit peu, avec une petite surprise, Reims a été accroché à domicile par le SCO d'Angers, 2-0. Donc les Rémois restent derrière. Et les Lorientais qui affrontent le 8e lors du prochain match, déplacement à Clermont, eh bien, tenteront de passer devant et au mieux maintenant d'égaler le record de points de leur histoire, 58 en Ligue 1. Ils pourront au mieux l'égaler, ils ne peuvent plus le dépasser. Mais les Lorientais ont en tout cas cet objectif, et cet objectif aussi de terminer dans la première partie de tableau.
Oui.
Oui.
Mais financièrement, c'est vrai que c'est important quand même pour Lorient. On en reparle de temps en temps, mais là, en fin de championnat, c'est important de le redire. Le classement peut rapporter quelques millions de plus moins au Merlu. S'il vaut mieux finir 8e, 9e que 11e ou 12e. Financièrement, c'est mieux pour le club.
7e, c'est fini. Non, je regardais Lorient-Strasbourg sur la dernière journée. Il y avait déjà eu un Strasbourg-Lorient sur une dernière journée.
Ouais, il y a deux ans, Lorient qui avait obtenu, enfin Strasbourg et Lorient, les deux avaient obtenu leur maintien sur la dernière journée avec un match nul. Mais c'est vrai que oui, financièrement, on se souvient, Pierre, de la saison 2016-2017 où Guingamp, pour un but de Rennes à la 93e, avait perdu une place au classement.
De 9e à 10e, oui.
Et il y avait 2 millions d'euros de droits télé. Voilà. Pour une seule place et un but à 2 millions, donc à la 92-93e des Rennais. Les Lensois, eux, font la grosse affaire parce qu'évidemment, avec la défaite de Marseille à Lille, ils comptent 5 points d'avance sur l'OM à 2 matchs de la fin, donc c'est quasi fait pour cette deuxième place. Et puis donc les Brestois qui sont maintenant 14e, sauvés, on l'a dit, dans cette Ligue 1, 41 points, qui peuvent même aller chercher la 13e place, pourquoi pas terminer un petit peu plus haut là aussi, mais en tout cas assurer de terminer dans les 16 premiers et maintenant dans les mêmes 15 premiers de cette Ligue 1, puisque seul Strasbourg peut éventuellement passer devant Auxerre et même aussi trop loin maintenant.
Ouais, et Nantes 17e, 33 points, hein, à 2 matchs de la fin, 6 points à prendre, 1 point de retard sur Auxerre.
Il y a le dernier match pour Nantes qui pourrait peut-être apporter 3 points contre Angers, mais c'est pas fait non plus, hein, parce qu'on a vu qu'Angers était accrocheur.
Ouais, et puis on a une équipe d'Auxerre qui va aller à Toulouse. Toulouse n'a plus rien à jouer. Toulouse, depuis la finale de la Coupe de France, il y a 4 matchs, 0 but marqué. Bon, ils en ont pris qu'un, mais il y a 3 fois 0-0. Ils ont tout mis en finale. Et puis Auxerre accueillera Lens sur la dernière journée, mais Lens n'aura probablement plus rien à jouer. Donc ce sera peut-être plus la même musique non plus. Bon, vaut mieux accueillir Angers probablement, mais on a vu Angers est allé prendre 1 point à Reims avec un 2-2. Bon, c'est très difficile de savoir qui va se sauver ou non entre Auxerre et Nantes.
La dynamique n'est certainement pas du côté nantais.
Non, moi je pense vraiment que Auxerre va se sauver, mais à voir.
Ça voudrait dire Nantes et peut-être Concarneau la saison prochaine pour jouer avec Guingamp en Ligue 2.
Mais peut-être aussi, on va justement y revenir dans un instant. Ce sera après une courte pause.
On peut y aller maintenant. Ah oui, on est un peu en avance, donc on peut parler du championnat de national.
On peut parler de Saint-Brieuc d'abord.
Dès maintenant et de Saint-Brieuc. Ouais.
Commençons par Saint-Brieuc qui est maintenant officiellement relégué en national après sa défaite, sa victoire pardon, de vendredi. Victoire qui ne permet pas.
Il peut y avoir encore un tout petit espoir quand même.
Alors sportivement, non. Sportivement, ce n'est plus possible.
Non, mais il peut y avoir un petit espoir si on a des clubs qui se font rattraper par le
financier, par la DNCG. Mais pour cela, il faudra quand même terminer au moins une place au-dessus, parce que le troisième relégable, à mon avis...
Il faut gagner le dernier match. Il peut... Ça pourrait, serait dommage de louper le coche si toutefois les deux premiers relégables devaient être pêchés.
En terminant 13 ou 14e, il pourrait y avoir un espoir. En tout cas, les Briochins se sont imposés 2-1 face à Sedan. But de Fodé Guirassy et d'Hicham Benkaïd, qui a d'ailleurs été récompensé du plus beau but de la saison.
Son but où on l'avait attendu juste après.
Oui, c'est ça. J'ai plus l'adversaire en tête, mais.
Ils sont retournés.
À Fred Aubert, la magnifique. Il a été récompensé du plus beau but de la saison au trophée du National ce week-end. Ramalingom a marqué le but soudanais en deuxième mi-temps, mais Saint-Brieuc l'a emporté 2-1. Et c'est vrai, bon, Saint-Brieuc qui est 15e, qui peut éventuellement terminer encore 13e dans ce championnat à 6 descentes, mais pourrait profiter des difficultés financières. On parle de Versailles qui a des problèmes financiers, de Niort aussi qui est en Ligue 2, qui va descendre en national, mais qui ne pourrait peut-être pas, tout ça est à prendre au conditionnel, mais repartir en national. Donc il y a peut-être un coup à jouer, une carte à gratter.
Il ne faut rien lâcher pour Saint-Brieuc jusqu'au bout.
Exactement. Et puis de son côté...
Il reste un match à jouer.
Oui.
Et Saint-Brieuc jouera à...
Au Red Star, qui joue la montée en Ligue 2. Donc ça ne va pas être simple d'aller gagner à Bauer. Une montée en Ligue 2 qu'on voit toujours, bien sûr, les Concarnois. Ils sont même premiers maintenant du championnat parce qu'ils ont battu Bourg-en-Bresse-Perona 3-2 vendredi. Un match totalement fou. Bourg a ouvert le score à la 5e minute avec Jonathan Rivas, l'égalisation à la 11e de Gaoussou Traoré. On se dit à ce moment-là que Concarneau va prendre le match par le bon bout, mais il y a Najim qui marque à la 31e pour Bourg, ça fait 2-1. Et puis le tournant, il arrive juste avant la mi-temps. Pénalty et carton rouge pour le défenseur de Bourg-en-Bresse. L'égalisation donc d'El Koumisti juste avant la pause à la 45e.
Sur pénalty.
Il y a toute une mi-temps où Concarneau n'arrive pas à marquer. Il faut attendre la 93e pour voir Antoine Rabillard marquer le but.
Il a fallu attendre 3-2, quand même. Ouais.
Et en sachant qu'à la 96e, coup franc pour Bourg-en-Bresse sur la barre.
Et sur la ligne aussi.
Elle n'est pas loin de rentrer. Ouais. C'est vraiment. Ça a basculé pour Saint-Brieuc, pour Concarneau, mais ça s'est joué à un millimètre, sans doute, une poignée de millimètres pour gagner ce match.
La chance était avec Concarneau
Exactement.
Samedi soir,
vendredi soir. Les Concarnois sont maintenant leaders, 59 points comme Dunkerque, 2 points d'avance sur le Red Star et sur Martigues. Ça veut dire que Concarneau peut encore finir 4e à un match de la fin. C'est complètement fou ce classement resserré.
Il y a 4 équipes qui peuvent monter, mais il n'y aura que 2 élus.
Et Martigues, Concarneau profite du faux pas de Martigues qui était leader mais qui a perdu chez le dernier 3-0 à Bordeaux.
Ouais, ça aussi c'est incroyable.
Extrêmement.
Concarneau qui avait perdu chez l'avant-dernier aussi une semaine avant.
Ouais, c'est ça, sur la pelouse du Puy une semaine avant. Donc c'est un match, c'est un classement extrêmement resserré, un championnat très très serré aussi. On va pouvoir d'ailleurs écouter Stéphane Lemignan qui revient notamment sur le discours à la mi-temps au moment où rien n'était fait dans ce match vendredi soir.
C'est un scénario encore, on pensait avoir un peu tout vu et puis finalement c'est encore plus fort. Voilà, c'est un match qui tourne pour nous, évidemment, on sait très bien, il y a des événements qui sont favorables jusqu'à la fin du match. Mais il nous reste une étape encore à réaliser avant de réaliser l'exploit.
Ouais, c'était bien sûr l'analyse dans un premier temps de Stéphane Lemignan après ce scénario fou. Le discours maintenant de la mi-temps, écoutons le coach Concarneau à nouveau.
Le discours, c'est de se dire qu'on a fait quand même quelques erreurs, qu'on a amené l'adversaire à marquer 2 buts, qu'on a le scénario qui est favorable avec l'expulsion et l'égalisation juste avant la mi-temps, qu'il fallait être à la fois se concentrer, être patient, ils sont plus qu'à 10, il faut essayer plus juste au niveau technique en essayant de trouver cette faille, mais avec une certaine patience. Et on n'a pas tout fait bien. On a essayé de pousser, mais c'était un petit peu désordonné. Et puis l'adversaire a fait son match aussi, il a bien défendu, ils ont été forts dans le système défensif qu'ils avaient mis en place.
Ouais, jusqu'à cette 93e minute et le but d'Antoine Rabillard. Une pause dans ce magazine et puis on revient à nouveau sur le championnat de National.
Renault. Le prix de l'électricité a augmenté, c'est vrai. Certains disent que la recharge d'un véhicule électrique serait plus chère qu'un plein de carburant. C'est faux. Rouler en électrique revient jusqu'à 3 fois moins cher qu'en thermique sur 100 km.
Découvrez Renault Mégane E-Tech 100% électrique prêt à partir, assemblé en France. Recharge à domicile, coût moyen entre 100 95, 2 euros le litre pour 6,5 litres au 100 et 20 centimes le kilowattheure pour 17,5 kilowattheure au 100. Source carbu.com et edf.fr, 17 avril 2023, selon stock. Au quotidien, prenez les transports en commun.
Et voilà, on a nos billets pour cet été. Nicolas, regarde la plage où on va bientôt aller.
Ouais, on fera des châteaux de sable.
Bien sûr.
Et on se baignera jusqu'à ce que nos doigts soient tout fripés.
Évidemment.
Et on pourra faire de la plongée et jouer au frisbee et aller manger une glace.
Oui, mon chéri.
S'envoler au soleil, c'est facile. Suivre le rythme de ses enfants, un peu moins. Envolez-vous vers la Corse, les îles grecques, la Sardaigne, Majorque et de nombreuses autres destinations à partir de 29 euros.
Volotea. Nous relions les villes Volotea. Tarifs sur réserve de disponibilité, conditions sur volotea.com.
Méné. Ah, vous aimez la guitare? Branchez plutôt votre batterie. La plus rock'n'roll des voitures électriques est de retour. En ce moment, profitez de la mini électrique des 325 euros par mois sans aucun apport. Le prix aussi est rock'n'roll. Exemple pour une mini électrique LLD 36 mois. Offre valable jusqu'au 30 juin 2023. Conditions sur mini.fr. Méné. Pour les trajets courts, privilégiez la marche ou le vélo.
Avoir un travail, c'est bien, mais pouvoir choisir son travail, c'est mieux. Chez Actual, acteur majeur du travail en France, c'est parce que nous pensons qu'on a le droit de choisir son travail que nous vous accompagnons pour vous proposer des postes et formations qui vous correspondent.
Actual, construisons ensemble votre travail.
Chez Domino's, jusqu'au 28 mai, c'est la Mega Week. Toutes les pizzas médium à emporter sont à 4,99€ avant 16h et à 5,99€ après. Dépêchez-vous, c'est jusqu'au 28 mai.
Domino's.
Offre non cumulable, hors supplément et ou modification dans les magasins participants, voire conditions sur dominos.fr. Mega Week égale semaine de folie. Pour votre santé, limitez les aliments gras, salés et sucrés.
Lorsque Julie ouvrit son colis Amazon, elle sentit son cœur s'emballer. Ce GPS intégré, ce capteur de mouvement intelligent, c'était le bracelet connecté de ses rêves à un prix si bas qu'elle ne put résister. Ça mérite bien 5 étoiles. Des super produits et des super prix. Découvrez nos super offres dès maintenant sur Amazon.
À La Massif, la parole de nos sociétaires sera toujours notre meilleure publicité. Antoine, sociétaire à La Massif.
En fait, j'attendais un prix compétitif pour les mêmes garanties et en un coup de fil, c'était réglé.
C'est notre façon de vous donner un coup de pouce, Antoine. Avec la garantie emprunteur de La Massif, vous pouvez économiser 10 000 euros sur votre prêt immobilier. La Massif, c'est vous. Économie sous conditions et selon le profil de l'emprunteur. Contrat assuré par Apivia Massif Mutuel, mutuel du livre 2 du Code de la Mutualité.
Renault, longue vie aux voitures à vivre.
L'autre jour, mon neveu me dit « José, j'ai créé ton avatar dans le métaverse pour m'entraîner. » C'est mon avatar, ça ? Merci.
On ne peut pas tous être experts des nouvelles technologies. Chez Renault Car Service, la révision de votre Renault E-Tech 100% électrique est à partir de 49 euros. Qui mieux que le numéro 1 de l'électrique peut entretenir votre Renault électrique ? Tarif conseillé réservé aux particuliers. Conditions et rendez-vous sur Renault.fr ou sur l'appli MyRenault. Numéro 1 des ventes de véhicules électriques en France depuis 2012, source mars 2023, 3A Data.
Moi, pour trouver les bons plans, je suis un peu comme un détecteur, genre... Allez, faut continuer, on va bien trouver quelque chose. Et quand je trouve un forfait 200 gigas à 14,99€ par mois, parce que je suis cliente Box SFR... Ouh, là, on a quelque chose.
En ce moment, chez SFR, débusquez l'offre spéciale 200 gigas 5G sans engagement à 14,99€ par mois, seulement pour les clients Box. Appelez le 1090, service et appel gratuit. SFR, soyez vous.
Offre soumise à condition, réservée aux nouvelles souscriptions. Prix client Box sans mobile, 5G sous réserve de couverture avec terminal compatible.
Lidl, réélu encore et encore, meilleure chaîne de magasins de l'année dans la catégorie supermarché.
Ah, le patron ?
T'es chez Lidl ?
Ah oui, et en ce moment, les deux panais au cabillaud sont à 1,79€ les 200 grammes, moins 29%.
1,79€ les panais ?
Ah oui, et c'est du cabillaud MSC, hein, issu de la pêche durable.
Ça peut plus durer, on est mal.
Lidl, le vrai prix des bonnes choses. Du cash à gagner jusqu'au 4 juin grâce au jeu concours sur l'application Lidl Plus. 8,95€ le kilo, transformé en France. Offre valable jusqu'au mardi 30 mai. Plus d'informations sur Lidl.fr. Pour votre santé, limitez les aliments gras, salés et sucrés.
19h55, le magazine des déchaînés du football. On continue de parler du championnat de national avec une fin de championnat passionnante. Ouais. Dans le bas, bien sûr, mais surtout dans le haut, parce qu'il y a 4 clubs qui peuvent encore monter.
Oui, 4 clubs, dont l'US Concarneau en tête de ce championnat de national à une journée du terme de la saison. Et si Concarneau est en tête, c'est notamment grâce à ce magnifique lob d'Antoine Rabillard, marqué à la 93e vendredi face à Bourg-en-Bresse. Antoine Rabillard qui était entré en jeu quelques minutes plus tôt. Écoutons la réaction du buteur héroïque.
Ouais, bah c'est un bon ballon de Romain. Je vois qu'il lève la tête, et il voit qu'il y a la place de la mettre. Moi, je fais l'appel en profondeur. Et je vois que le gardien est un peu sur le reculoir, donc le ballon rebondit. Donc je me dis, c'est ma chance, j'ai la place pour le lober. Et voilà, j'ai réussi mon geste et je vois que ça rentre. Donc là, c'est un peu l'explosion. Et c'est des moments incroyables à vivre et je suis très content de l'issue du match. Je le sentais, je savais que ça allait être pour moi, je savais que j'allais en avoir une. Et j'en avais discuté avec Faisal sur le banc, je lui ai dit que j'allais rentrer, que j'allais marquer. Et ce soir, ça s'est réalisé. Donc c'est une bonne chose. Je suis content pour le groupe, pour les supporters. Il y a une sacrée ambiance ce soir. Et bon, maintenant, on va savourer, mais il nous reste un match super important à aller chercher à Orléans. Et voilà, on est à un match d'écrire l'histoire, il ne faudra pas se rater.
Ouais, un match d'écrire l'histoire, parce que ce serait une première hein, pour Concarneau, ouais. Jouer en Ligue 2, ils ne sont jamais allés au-delà du national.
Ce qui est fou sur ce but-là, c'est que être à ce moment-là, avec ce contexte-là, avoir la lucidité et la qualité technique, ouais, de faire ce petit ballon piqué. Chapeau mon garçon, hein, parce que moi je pense que mes chevilles auraient tremblé. Hein, mais...
Oui, moi j'aurais sans doute pas fait l'appel.
Ouais. vous seriez caché. Mais non, ouais. C'est exceptionnel.
Non, ouais, superbe geste pour un Antoine Rabillard qui en plus joue peu ces derniers temps, il est moins titulaire mais décisif quand même avec ce but. Concarneau, sur le dernier match, se déplacera à Orléans. Alors qu'en est-il du programme des autres clubs? Dunkerque ira au Mans et Pierre, le Red Star recevra Saint-Brieuc pendant que Martigues
Martigues accueillera Versailles. Donc il y a deux clubs à domicile, deux à l'extérieur. Les deux qui sont premiers sont à l'extérieur.
Dunkerque au Mans, Concarneau à Orléans.
Ouais, on en rappelle, hein, Dunkerque premier et Concarneau deuxième, 59 points. Martigues et Red Star troisième et quatrième, 57 points. Donc ça va se jouer là. Je pense que ça va encore être un scénario de fou. Hein. De toute façon, ce championnat.
Pronostic, Concarneau en Ligue 2 la saison prochaine.
Ah
avec,
oui, je pense.
Avec qui?
Moi, mon choix du cœur, c'est le Red Star. Parce que, habitant une partie de l'année à Saint-Ouen, je veux voir Red Star Guingamp l'année prochaine.
Ouais, ça ne serait pas bon pour Saint-Brieuc.
Non, non, mais après. Non.
Moi, je pense que ça va être Dunkerque et Concarneau. Je pense qu'ils vont finir le boulot là, tous les, tous
ouais,
les deux.
Pronostic mais... objectif, je vais vous dire ça aussi.
Mais après, déplacement à Orléans et au Mans, c'est pas non plus ultra simple hein, pour les deux premiers.
Orléans est combien?
Orléans, dans le ventre mou, ouais, n'a plus 8e. Rien à jouer.
Ouais. Le Mans, 10e aussi.
Le Mans est, alors je pense, sauvé. Faut regarder avec Nancy, il y a 3 points d'écart. Probablement sauvé quand même hein, les manceaux. Mais ouais, c'est pas évident. Et en sachant qu'il y a plusieurs cas de figure où. Concarneau peut se retrouver aussi à égalité avec certains clubs. S'ils sont tout seuls à égalité avec Martigues, Martigues sera devant. En revanche, s'ils sont à égalité avec trois clubs, ils seront devant les Concarneaux. S'ils sont à égalité avec, je sais pas, Dunkerque et Red Star, avec Dunkerque et Martigues ou avec Martigues et Red Star, ils seront devant. Par contre, si Dunkerque est premier et que Martigues et Concarneau sont à égalité, Martigues sera devant. Donc il faut faire attention, il faut vraiment gagner parce que le nul ne garantit absolument pas de monter en Ligue 2. Il faudra regarder les autres résultats, donc ça peut être tendu. Bon, ce serait une bonne idée.
Vendredi soir. Hein. Boulot.
Ouais, vendredi soir, match à, je crois, 21h, comme vendredi
oui,
dernier,
ça,
comme
oui.
La semaine dernière, 21h, la dernière journée.
Comme la Ligue 2.
Voilà, et tous les matchs se jouent en même temps, comme en Ligue 2, Ligue 1
la
aussi.
Ligue 2, c'est 20h45, je crois. Je ne sais pas pourquoi.
Ah oui, 20h45,
ah oui, c'est vrai, 20h45. C'est 20h45, et alors qu'en Ligue 1, c'est 21h, et en National, ouais. C'est aussi 21h. Mais ouais. Bon, là, on a un quart d'heure pour la Ligue 2, on ne sait pas pourquoi.
Ouais.
Voilà, on finira un quart d'heure.
Un petit mot juste avant les infos de 20h, parce que le week-end prochain, il y aura les dénouements hein, dans les championnats N2, N3. Alors bon, pour la N2, le suspense pour les clubs qui nous intéressent, c'est surtout pour la réserve de Guingamp qui joue à Roudourou contre Vannes samedi, donc à 18h. Vannes déjà condamné. Saint-Malo qui va essayer de donner un petit coup de main au Guingampais parce qu'il joue contre Évreux qui est premier relégable. C'est à Marville. Saint-Malo qui, on le rappelle, est quatrième hein, du classement de N2 à la faveur d'une belle série dernièrement. Et puis surtout, le dénouement en National 3 parce qu'il y aura une balle de montée dans les mains de Dinan Léon en déplacement à la Théarène samedi prochain à 18h. Une victoire et Dinan Léon serait assuré de monter en National 2 l'an prochain.
Merci d'écouter Radio Bonheur. Au carillon de Radio Bonheur et sur les montres qui marchent, il est 20h. Tout de suite les infos, on se retrouve juste après.
Bonsoir à toutes et à tous. Le conducteur mort dans la collision entre son véhicule et une voiture de police hier au niveau de Villeneuve-d'Ascq dans le Nord était positif à l'alcool et au cannabis. Son taux d'alcoolémie était de 2,08 g et l'enquête a également révélé la présence de produits cannabiques dans son organisme, a précisé une source. Le grave accident a provoqué la mort de 3 policiers du commissariat de Roubaix et grièvement blessé 2 passagers. Un hommage national sera rendu au jeune policier mort dans l'accident. On verra avec les familles pour qu'un hommage soit rendu ici à Roubaix, a précisé aujourd'hui Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, ajoutant qu'il présiderait la cérémonie pour que dans tous les commissariats de France, dans toutes les brigades de gendarmerie, dans toutes les préfectures et sous-préfectures, et pour tous ceux qui le souhaitent, dans toutes les mairies de France, on puisse avoir une pensée pour ces 3 jeunes policiers, a-t-il ajouté. Une infirmière et une secrétaire médicale ont été blessées à l'arme blanche en début d'après-midi au sein de l'hôpital de Reims et le pronostic vital de l'une d'elles est engagé. Une enquête pour tentative d'assassinat a été ouverte et confiée au commissariat central de Reims, a indiqué Mathieu Bourrette, procureur de Reims, précisant qu'une personne avait été interpellée. L'Agence nationale de sécurité du médicament, l'ANSM, alerte sur des tensions d'approvisionnement touchant des auto-injecteurs d'adrénaline après l'arrêt mondial temporaire d'un modèle de ces stylos utilisés en cas de réaction allergique. Depuis le 4 mai, les auto-injecteurs d'adrénaline EMRAD, commercialisés en France depuis 2021, ne sont plus distribués en pharmacie en raison d'un risque de dysfonctionnement et par mesure de précaution, précise l'agence, tout en qualifiant ce risque de faible. Et puis, des orages diluviens se sont formés dans l'Allier ce matin. Depuis, il ne cesse de pleuvoir sur la zone, notamment au sud du département, où l'on retrouve des impacts de foudre et des inondations. Aucune victime n'est à déplorer, mais des habitants vont devoir être relogés avec 20 cm d'eau, voire un peu plus à l'intérieur de certaines habitations.
Qui c'est qui est très gentil ? Économie.
Les gentils.
Et qui gaspille son argent.
Les méchants.
Qui c'est qui vend des fusils.
Les gentils.
Qui c'est qui se retrouve devant.
Les méchants.
C'est comme un guignol spectacle permanent. Et vive l'école et vive le régiment. Quitte à de l'antipathie.
Les gentils.
Pour quitte à un gros penchant.
Les méchants.
C'est travail, famille, patrie. Les gentils. C'est la retraite à 20 ans. Les méchants. Samedi. Ils font ça n'importe quand, les méchants. Ils crèveront le cul béni, les gentils. Ils crèveront le cœur content, les méchants.
C'est la dernière demi-heure du magazine des déchaînés du football, puisqu'il est 20h04. On est ensemble jusqu'à 20h30, la dernière demi-heure, avec maintenant la Ligue 2, le championnat de Ligue 2, et l'en avant Guingamp qui a réalisé un bon match nul contre Metz. Hein, Metz qui se bat peut-être encore pour l'accession en Ligue 1 la saison prochaine. C'était pas joué ce match contre Metz. Hein.
Non, loin de là, surtout vu l'entame de rencontre des Guingampais, où pendant une demi-heure, Gaëtan, on y reviendra, on s'est dit qu'on pouvait peut-être prendre une petite sacoche à Roudourou, mais Guingamp est bien revenu au cœur de la première période. Et encore mieux, au retour des vestiaires, on réécoute ce qu'il s'est passé. C'était samedi soir à Roudourou.
Attention, ce ballon messin, il est bon. La frappe de Mikotadze, le but messin, superbe action sur le côté. On sent que ces trois-là se trouvent parfaitement depuis le début du match. Le petit ballon en profondeur de la part de Maziz pour Udol qui a pris le couloir, le centre en retrait pour Mikotadze qui était tout seul, abandonné de la défense guingampaise. Il a ouvert son pied, c'est arrivé au pied du poteau de Basilio. C'est imparable et c'est le 23e but cette saison de Mikotadze, 1-0 pour Metz à Guingamp. Attention, peut-être deux là sur cette incursion de Kouaou, le centre au second poteau, la barre ! Oh, quelle était belle cette reprise ! Elle est bonne cette balle, Mouyumba qui s'est arraché pour donner sur Courtet, donne-la ! Oh ! Ah, c'est pas fini. El Ouazzani qui se l'emmène. El Ouazzani peut-être sur son pied gauche. Il ressort à l'angle des 6 mètres. L'arrivée de Louiser. Et ce sera corner. Oh, quel dommage. Et il manque pas grand-chose quand même, hein, au Guingampais pour pouvoir égaliser. pour un tir de loin. Sinon, il y a 5 autres Guingamp devant le but. C'est frappé vers le but. Oh, c'est récupéré. Picard, premier ballon. Allez, Manceau, le contrôle. La frappe juste au-dessus de Vincent Manceau. France, c'est joué court sur Louisère qui peut frapper de loin, ras de terre, c'est contré. Allez Guillaume, il est pas en jeu. Oh, il frappe au-dessus, malheureux. Quelle occasion ratée par Guillaume. Guingamp est l'équipe qui a le meilleur ratio de tirs convertis en but en Ligue 2 cette année. Allez, peut-être là, Mouyumba devant le but, et voilà. L'égalisation signée de Monsieur 300 matchs en Ligue 2, Gaëtan Courtais, qui permet à Guingamp de transformer son excellent début de seconde période. On ne voit que du rouge depuis le retour des vestiaires. C'est Guingamp qui égalise, c'est Guingamp qui remet Metz dans le doute. Kouaou l'a mal négocié, Picard sur la gauche de la surface. Allez, sors-nous de la magie encore Hugo. Le centre, oh Louisère, Guillaume au-dessus. Oh, dommage, ça aurait pu être un but fantastique. Mais il l'a mise, hop, 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 Louvambo, il est passé. Centre en retrait, Picard. Oh, c'est contré par un défenseur messin. Quelle occasion pour Picard et les Messins, tout heureux. Bravo messieurs les Guingampais, parce que vous nous avez offert vraiment une seconde période de très bon niveau. En témoignent les applaudissements de Roudourou. Guingamp freine Metz dans la course à la montée. Guingamp se crée de nouveaux amis du côté de Bordeaux. Ouais. C'est un score quand même assez logique, une mi-temps de chaque côté.
Oui, et on peut vous dire que après le match, quand on regardait un petit peu les réseaux sociaux et les réactions sous le visuel du score posté par l'En Avant Guingamp, il n'y avait que des Bordelais qui félicitaient les Guingampais. C'est tout le temps ça, en fin de saison, on se découvre un peu des nouvelles passions, des nouveaux clubs. Et voilà, bon, c'est vrai que ça a fait l'affaire des Bordelais qui comptent 3 points d'avance hein, maintenant sur
avec
Metz.
Avec 2 matchs à jouer, c'est un avantage conséquent.
Ouais, alors la différence de but est quasi similaire, elle est même légèrement en faveur de Metz, donc bon, il y a quand même un petit espoir.
Bordeaux est en
un joker encore.
Ouais, Bordeaux est en Ligue 1 à 80%, c'est pas tout à fait fait, mais 8 chances sur 10, je pense. Hein.
Depuis samedi, là, ça paraît compliqué, Gaëtan.
Ouais, le match qui peut éventuellement relancer le débat, c'est Annecy-Bordeaux. Annecy à domicile, pas facile à jouer. Ils ont battu le Havre d'ailleurs il y a une semaine.
C'est le prochain match.
C'est le prochain match. Mais Bordeaux-Rodez à domicile, les Girondins, ils gagneront ce match-là. Par contre, à Annecy, c'est éventuellement l'espoir. Et c'était d'ailleurs l'espoir de la Slow Bologna, hein, me semble, après le match nul à Guingamp, au goût de défaite finalement pour les Messins.
Un petit espoir encore malgré tout pour Metz.
Parce que si Bordeaux gagne, ou tout du moins ne perd pas à Annecy, bon, je pense que ce sera fini pour les espoirs Messins.
Ouais, dans un bas de tableau aussi où c'est très très serré. Hein. C'est terrible, je sais pas. On est en train de regarder le classement. À combien de points le maintien va se jouer? 43, 44? Parce que là, le premier relégable, Laval, est 17ème, donc avec 40 points. Pau 41, Dijon 41, Annecy 42.
Peut-être 44 hein, pour être sauvé. C'est probable qu'il ait au moins besoin de 44 points. Parce
ce qui ne serait pas étonnant, hein, parce qu'avec 4 descentes, habituellement, on descend avec moins, mais habituellement, on descend quand on est 19e ou 20e.
Ouais. Et là, depuis ce week-end, on rappelle que Niort et Nîmes, surtout Nîmes, sont condamnés depuis,
c'est fait pour eux, hein.
Depuis samedi. Alors, ce Guingamp-Metz, donc, un match plaisant.
Je pense que les spectateurs neutres au match ont passé un bon moment, parce que Metz a quand même bien déroulé dans un premier temps, avant que ce soit Guingamp qui domine dans les grandes largeurs la seconde période. Voici la réaction de Stéphane Dumont par rapport à la première période.
Ils ont surtout eu beaucoup de contre. On a perdu beaucoup de ballons. Je trouve qu'on est tombé dans un faux rythme qui nous ressemble pas et qui est pas nous. Et notamment, nos dernières entames ne correspondaient pas à ce qu'on a fait là. Et c'est ce que je leur ai dit à la mi-temps. Faites du Guingamp. Et la première mi-temps nous ressemble pas. Et en tout cas, ressemblait pas à ce qu'on faisait ces derniers temps. Et on a été punis parce que ces joueurs-là, à chaque récup, font mal.
J'ai bien aimé le terme faites du Guingamp.
Ouais.
C'est vrai que... Alors, même si je trouve que le Guingamp de Dumont n'est pas peut-être le plus fidèle au Guingamp que l'on aime le plus, parce que, et c'est même pas une critique ce que je dis, c'est qu'on voit un Guingamp qui, encore une fois samedi, a marqué un but en multipliant les passes, en faisant de longues séquences de possession. C'est vrai que le Guingamp
qui emballe le Rodoro, c'est plutôt à Guingamp qui va vite vers l'avant, ouais, avec très peu de passes, qui centre, etc. Voilà, quelque chose d'un peu plus pétillant. Mais bon, quand même, on a vu un très bon Guingamp en seconde période, Gaët.
Ouais, ouais, c'est Guingamp aurait largement pu le gagner, hein, en deuxième mi-temps. On n'oublie pas la barre des Messins aussi pour l'éventuel 2-0 en, oui, première période. Hein. Mais c'est vrai que sur la deuxième, Metz a eu qu'une seule frappe dans le petit filet là, d'Abli Diallo. Pour le reste, Guingamp a eu pas mal de situations, d'occasions, une maîtrise bien plus importante. Et j'ai trouvé Guingamp avec un allant aussi, beaucoup. Ouais, une équipe bien plus élancée en fait que son adversaire. Des Messins, étonnamment, le mot qui ressortait, c'était extinction pour les Messins, oui, en deuxième mi-temps. Plus de jambes, plus de son, plus de lumière. Et des Guingampais qui au contraire étaient totalement libérés, comme c'est le cas parfois des équipes qui n'ont plus rien à jouer. Mais ouais, un vrai beau visage de Guingamp sur la deuxième mi-temps. Ça a mis du temps à se mettre en route sur le match, mais la deuxième en effet a été aboutie.
Ce qui a été étonnant, c'est que nous, de notre position en tribune de presse, la position Radio Bonheur, on est un peu décalé sur la gauche, on est dans l'axe du banc de Guingamp, donc un peu décalé sur un côté. Et au bout de 10 minutes en seconde période, on s'est fait la réflexion, on s'est dit, mais attendez, on n'a jamais vu le jeu devant nous en fait en deuxième mi-temps. C'était tout le temps à droite là, avec les rouges de Guingamp qui monopolisaient le ballon. Qu'est-ce qui a été mieux fait dans cette seconde période? Réponse de l'entraîneur.
Bon, je vous dis, on s'est mis dans la tête d'être plus compact avec le ballon, sans le ballon, d'avoir par moment une alternance entre déformer comme on l'aime en bas et puis être capable d'avoir un peu de jeu direct, de s'appuyer sur nos deux attaquants et puis de les sortir de leur zone de confort tout simplement. Et une fois que vous mettez de l'allant, une fois que vous avez des opportunités, que vous commencez à les fragiliser, bah c'est beaucoup mieux. Ça ressemblait à ce qu'on fait ces derniers temps. Et je lui ai manqué un peu d'efficacité, mais en termes d'état d'esprit et de qualité sur cette deuxième période, on est sur quelque chose de sympa.
Ouais, 10 tirs à 1 en seconde période pour les Guingampais. Le problème, c'est qu'il n'y a eu que 3 cadrés, hein, pour les Guingampais, parce que c'est vrai que nous reviennent à l'esprit la frappe de Manceau juste au-dessus, oui, celle de Guillaume, oh, surtout juste avant l'égalisation. Il ne nous avait pas habitué à en rater des celles-là comme ça. Hein.
Non, celle-là, elle est énorme. La deuxième est plus dure parce que c'est une volée sur une superbe remise de la poitrine de Louisère.
Ah non, pardon, elle s'envole.
Non, elle s'envole. Mais c'est vrai que c'est la première, hein, vraiment. Il a fermé les yeux et mis tout ce qu'il avait dans les jambes, quoi. Baptiste Guillaume, mais là, c'est parti nettement au-dessus. Et elle demandait en effet à aller au fond. C'est juste avant l'égalisation, hein, cette.
Oui, c'est 2-3 minutes, ouais, avant.
Et puis bon, il y a ce but de Courtais qui finit fort, hein, qui marque beaucoup là sur cette fin de saison depuis le match d'Amiens. Finalement là, il s'est mis à enchaîner. Il a
4 buts en 6 matchs et 3 sur les 3 derniers à domicile.
Ouais, il est marqué contre Laval aussi entre temps. 8 buts, 9 même avec la Coupe de France pour Gaëtan Courtais. Ouais, une attaque qui retrouve un peu d'allure. Alors bon, ce qui est toujours un peu décevant, je trouve, avec cette attaque là, c'est de voir El Ouazzani sur un côté. Je préfère clairement quand il est en pointe.
Oui.
Mais bon, Guingamp fait avec ce qu'il a sur cette fin de saison. Et le recrutement estival amènera sans doute derrière d'autres possibilités à Stéphane Dumont et peut-être celle de réaxer Amine El Ouazzani. Mais ouais, en tout cas, on retrouve une équipe avec un peu d'allant quand même sur pas mal de matchs, hein, ces derniers temps.
Ouais, vous parlez de l'avenir, on va écouter dans quelques instants deux joueurs qui pourraient ne pas être guingampés la saison prochaine. Le premier, c'est le gardien Enzo Basilio qui racontait sa deuxième mi-temps face à la meilleure attaque de Ligue 2 où bizarrement, il n'a quasiment rien eu à faire.
Bah, c'est pas évident parce que en seconde période, c'était dur à juger qu'ils venaient pas trop chercher, ils étaient bas. Et le danger, c'est de prendre un contre tout simplement sur une perte de balle, sur un coup de pied arrêté, sur une attaque rapide. Donc, fallait rester concentré le maximum.
Ouais, parce qu'on a vu que l'unique frisson amené par les Messins dans la surface de Guingamp, c'est sur une perte de balle de Louisère dans le camp d'en avant. Sinon, pas grand chose. Et par contre, ce qu'on a beaucoup aimé, Gaëtan, dans ce match-là, c'est donc l'animation offensive de Guingamp. On a déjà parlé des quatre de devant, plus l'entrée de Picard, qui a été un élément moteur aussi de la belle seconde période. Mais le rôle du duo Louisère-Muyumba, on aurait aimé les voir un peu plus actifs comme ça aussi cette saison.
Ouais, on se souvient qu'ils avaient bien démarré. On avait d'ailleurs dit que Louisère s'était tout de suite incorporé à cette équipe comme s'il jouait à Guingamp depuis 3 ans. Mais tous les deux ont eu un gros coup de mou et je trouve que le coup de mou de Guingamp qui est arrivé en octobre là, il vient peut-être finalement de ce milieu de terrain là. C'est un coup de mou qui a été un peu général, mais c'est peut-être le rendement des deux milieux de terrain qui a pesé aussi sur le reste de l'équipe. Et on voit que quand ces deux-là vont beaucoup mieux, bah, l'équipe va beaucoup mieux. Et c'est notamment le cas de Muyumba aussi, qui s'est illustré avec une passe décisive pour Courtais, qui a été plus présent offensivement. Et puis Louis Herr, qui a été très propre également dans ce qu'il a réalisé, qui s'est parfois projeté. On parlait de la remise de la poitrine pour Guillaume.
Il a eu une belle occasion en première mi-temps aussi. Hein.
Aussi, et qui a globalement livré un bon match. Hein. Il a été juste au milieu. Donc oui, le coup de mou qu'a connu Guingamp, c'est peut-être aussi par rapport à ce coup de mou des deux milieux de terrain. Hein. Si les milieux de terrain avaient gardé, on va dire, le tempo qui était celui du début de saison, peut-être que Guingamp aurait vécu une saison un peu plus joyeuse, on va dire, dans l'ensemble.
Les projections, thèmes abordés par Tristan Muyumba après le match.
Ouais, bah c'est des consignes que le coach me donne personnellement. Après, que ce soit moi ou Dylan, on essaye d'apporter notre pierre à l'édifice offensivement. On essaye de pouvoir se projeter, que ce soit moi ou lui. Après, on sait que Dylan il peut assurer un peu plus l'équilibre défensivement. Donc ouais, c'était une volonté de ma part, mais c'était surtout une consigne du coach. C'est des choses qu'on met en place à l'entraînement la semaine. Donc, voilà.
Muyumba qui n'a toujours pas marqué cette saison. Il a délivré sa deuxième passe décisive après celle contre Amiens il n'y a pas si longtemps que ça à Rodourou. Il avait marqué trois fois l'année dernière. Bon, c'est un cap aussi qu'il doit passer et même repasser.
Ouais, c'est ce qu'il disait lors d'une interview dans la semaine pour le Télégramme. Il disait qu'il devait être plus décisif. Alors il a été par la passe décisive là, mais qu'il voulait terminer la saison par un petit but. Bon, ça viendra peut-être sur
les deux derniers matchs.
Il reste deux matchs. Mais c'est vrai quoi, il estime devoir être plus important, avoir plus d'impact là-dessus. Et Stéphane Dumont le disait par rapport à sa formation où il a un vécu aussi plus haut sur le terrain. Tristan Muyumba doit être en capacité d'être plus décisif.
Après, il a pas eu beaucoup de réussite parce qu'il y a eu deux sauvetages sur la ligne cette saison. Une frappe à Sochaux aussi repoussée. Bon, ça va venir. Et une dernière page de réclame et on reparle de ce Guingamp-Metz.
On m'avait dit que le BTP était un secteur qu'on choisit par défaut. Moi, j'y ai trouvé ma vocation.
On m'avait dit que le BTP, ce n'était que des métiers d'hommes. En étant sur le terrain, j'ai vu que j'y avais toute ma place.
On m'avait dit que le BTP n'était pas un secteur innovant. Pourtant, chaque jour, je rénove et je construis avec des matériaux plus écologiques.
Sortons des clichés et construisons maintenant le monde de demain, grâce au métier de la rénovation énergétique et du bâtiment. 30 choix de carrière qui ont du sens, à découvrir sur france-rénov.gouv.fr, rubrique professionnelle. Ceci est un message du gouvernement.
Chez Domino's, jusqu'au 28 mai, c'est la Mega Week. Toutes les pizzas médium à emporter sont à 4,99€ avant 16h et à 5,99€ après. Profitez de nos savoureuses pizzas. Dépêchez-vous, c'est jusqu'au 28 mai.
Domino's.
Offre non cumulable, hors supplément et ou modification dans les magasins participants, voire conditions sur domino's.fr. Mega Week égale semaine de folie. Pour votre santé, évitez de grignoter.
L'engagement, se donner sans compter, la solidarité.
Merci.
S'occuper des autres comme on s'occupe de ses proches. L'action. Faire plutôt que regarder.
Ça va, madame ?
C'est tout ça qui guide Marie dans sa vie de tous les jours. Et c'est pour tout ça qu'elle a choisi de devenir policière. Vous êtes fait pour être policier. Découvrez le métier qui vous ressemble sur devenirpolicier.fr. Police nationale. Protéger le plus beau des métiers.
Ceci est un message du gouvernement.
Leclerc. Alors, du café moulu classique pour le matin, de l'espresso pour le midi et du déca pour le soir.
Dis donc, t'es une pro du café.
Ah bah chez Leclerc, pour l'achat de deux paquets de café moulu carte noire de 250 grammes, le troisième est offert, alors...
Attends, un paquet de café offert pour deux achetés ?
Oui.
Trop bien.
Mais je suis aussi une pro des bons plans.
Oh, je t'adore.
Tout ce qui compte pour vous existe à prix Leclerc.
Du 23 mai au 3 juin, modalité magasin et drive participant sur www.e.leclerc. Pour votre santé, limitez les aliments gras, salés et sucrés.
Radio Bonheur, 20h20, presque 21 minutes, toujours avec les déchaînés du football ce soir en direct.
Oui, on parlait tout à l'heure en début d'émission que Brest avait construit son maintien sur sa superbe série à domicile, 5 victoires de suite. Alors Guingamp, je ne sais pas ce qu'ils ont construit dans cette fin de saison, ni leur maintien, ni leur montée, mais au moins... le fait de se maintenir comme ça et de pouvoir espérer pourquoi pas la 7e voire la 6e place du classement, c'est dû à ces matchs à domicile, hein. Ça fait 5 victoires sur les 7 derniers matchs, alors que sur les 7 précédents, il y avait eu 0 victoire pour les Guingampais à domicile. Au moins ça a été bien rectifié par l'équipe de Stéphane Dumont, qui a aligné 3 victoires de suite à la maison. C'est une première depuis le début du championnat. Qu'est-ce qui a changé à domicile pour que Guingamp soit bien meilleur? Réponse de Vincent Manceau.
Parce qu'on a bien réagi par rapport à notre début de saison, parce qu'on est beaucoup plus ensemble sur le terrain, on est beaucoup plus en bloc, on met beaucoup plus d'intensité, que ce soit avec ou sans le ballon. Donc c'est pour ça que maintenant les équipes ont plus de mal à trouver les bonnes positions, à trouver les décalages pour être dangereux. Donc tant mieux, il faut qu'on continue comme ça jusqu'à la fin de saison, aller chercher, c'est pourquoi pas cette 7e place pour récompenser notre saison. Donc on a un petit objectif à aller chercher.
Ouais, cet objectif 7e place. Et puis Vincent Manceau le dit, Gaëtan, c'est vrai que dans il y a eu pas mal de matchs cette saison où on s'est dit c'est pas possible, le bloc guingampais est beaucoup trop écarté, les joueurs sont très loin les uns les autres. Là, c'est beaucoup plus compact.
Ouais, c'est plus compact, plus rigoureux en fait dans le placement, je pense aussi ces derniers temps. Ça vient peut-être aussi des repères retrouvés par les deux du milieu dont on parlait il y a un instant, Dylan Wieser et Tristan Mouyumba. Et puis oui, on a une équipe, c'est vrai, plus compacte. On a l'impression que cette équipe peut voyager. Des fois, on dit ça, une équipe qui est capable d'aller à l'extérieur, elle peut subir, et ça peut passer. Guingamp donne un peu cette sensation-là de pouvoir voyager. Elle a pris un peu le feu, la marée contre Metz pendant une demi-heure, mais elle a tenu globalement et elle a su revenir dans ce match, elle a su faire en sorte de même être proche de renverser la situation. Voilà, c'est une équipe qui est capable, je trouve, maintenant de... Alors, ça reste à confirmer, c'est sur une fin de saison, mais capable davantage de tenir les matchs et en tout cas de garder l'adversaire à portée de fusil pour revenir dans les rencontres.
Ouais, effectivement, et là on peut faire déjà un premier petit bilan de la saison parce qu'il nous reste quelques petites minutes. Il y avait un gros dossier dans ce début de championnat, c'était l'attaque. Force est de constater, là, Guingamp est la 5e attaque de Ligue 2. Donc déjà, de ce côté-là, ça va. C'est plus derrière.
Ça va mieux, parce qu'il y a eu un long temps dans la saison où, ça avait démarré très fort, mais il y a un gros trou.
Cet hiver, c'était pas fameux.
Non, Guingamp ne marquait presque plus. On se souvient de la série octobre-novembre, là, avant la Coupe du Monde, et même sur le retour Coupe du Monde, où c'était compliqué, la défaite contre QRM. Guingamp ne marquait plus. Mais c'est vrai que là ça va mieux, on a déjà un El Ouazzani qui est arrivé et qui a beaucoup marqué, Guillaume qui s'est mis à marquer à partir de la 19e journée, et donc tous ses buts sont quasiment sur la phase retour, ça a regonflé aussi les chiffres, et Courtais qui termine en boulet de canon. Donc forcément c'est vrai que ça amène des stats générales meilleures, mais cette saison de Guingamp est très séquencée en fait, donc un peu difficile à lire. Quand on regarde le global, on se dit ouais, c'est vrai qu'il y a des bons passages, mais elle est très séquencée.
Ouais, sur les 7 derniers matchs, Guingamp serait 5e de Ligue 2. Ouais. On a vu qu'elle était 3e, 4e sur les 2 premiers mois. Et puis,
relégable.
Entre les deux, c'était moins bien.
Ce trou d'air, effectivement, pour les Guingampais. Mais le chantier pour l'an prochain, ça sera véritablement la structure défensive. Parce qu'on a eu un débat là-dessus sur Twitter avec quelques supporters il n'y a pas longtemps. On essayait de retrouver, sur les dernières années, une charnière centrale, même pas une ligne de défense. Une charnière centrale qui s'est installée sur 3, 4, 5 mois. Depuis Kerbrat Sorbon, il y a un paquet de temps quand même.
Ouais.
On n'a pas retrouvé. Parce qu'il y a eu à un moment Niakate Sampaio. La charnière la plus solide qu'on ait eue sur un ou deux mois, c'était Sampaio Romao, la fin d'année Bompard, où Guingamp n'encaissait plus de buts. Depuis le début de saison, Dumont a dû aligner 4 ou 5 charnières différentes, que ce soit à 3 ou même à 2.
Là, un petit peu sur la fin de saison dernière, la défense à 3, où il y avait l'aumônier avec qui l'entourait,
Rioux
et Roux. Les trois là sur. Mais pareil, c'était sur une période assez courte, hein, de 2 mois, mois et demi.
Et Guingamp qui essaie des buts à ce moment-là.
Et Guingamp qui essaie des buts et d'une fin de saison où il n'y avait pas d'enjeu spécifique non plus. Donc c'était aussi à mettre en relief.
Alors là, donc il y a une question aussi qui se pose par rapport au gardien. Basilio termine sa 3e saison avec en avant. Gros point d'interrogation pour savoir s'il restera l'an prochain. En défense centrale, Mbesso devrait partir parce qu'il est prêté par Nottingham Forest. Et autant vous dire que les salaires entre la Première Ligue et la Ligue 2, et surtout un 11e budget de Ligue 2, c'est pas du tout dans les cordes. Point d'interrogation aussi sur Jules Godin, qui est en fin de contrat. Va-t-il prolonger ? On sait qu'il y a un bon de sortie pour Tristan Mouyumba. Donc vraiment, le seul joueur qui serait vraisemblablement amené à partir dans le secteur offensif, c'est Lee Volland, qui est là depuis un moment. C'est peut-être le moment pour lui de franchir un nouveau palier, mais tous les autres, normalement, sauf offre de 15 millions, seront là l'année prochaine. Mais là, donc, Mouyumba sera peut-être plus là. Guingamp est déjà assez court au milieu de terrain en termes de joueurs. Donc là, ça sera un chantier. Et puis surtout derrière, trouver enfin des complémentarités, installer une charnière centrale. C'est vrai qu'au début de saison, c'était le Meunier.
Qui va revenir, hein, du coup, le Meunier.
Oui, mais on va voir s'il arrive déjà à gratter un groupe d'ici à la fin de la saison. Ouais. Sur le couloir droit, ça ne devrait pas trop bouger entre Civis et Manceau. Mais voilà, les chantiers, ils seront derrière pour l'équipe de Guingamp. Parce qu'encore une fois, on le répétait et on le disait il y a quelques temps de ça, vous ne pouvez avoir aucune ambition en Ligue 2 si vous êtes 13e ou 14e défense de Ligue 2, non. Comme c'est le cas depuis 2 ans. Pour l'équipe de Stéphane Dumont qui accueillera Niort vendredi à Roudourou à
20h45. Voilà, j'allais le dire.
Déplacement ensuite à Grenoble le vendredi 2 juin à 20h45 aussi. Donc c'est
à noter que pendant le match de Niort, hein, Guingamp-Niort, nous suivrons évidemment le but par but du championnat de national. Et donc on en saura plus sur Concarneau et peut-être sur Saint-Brieuc. On n'a pas beaucoup d'attentes, on n'a plus beaucoup d'attentes maintenant avec Saint-Brieuc, mais on ne sait jamais, une victoire pourrait peut-être au moins donner encore un petit peu d'espoir dans les prochaines semaine avec d'éventuelles relégations financières entre guillemets. En tout cas, donc le but par but avec la soirée de National, la dernière soirée de National, ce sera en direct sur Radio Bonheur en même temps que le match Guingamp-Niort vendredi soir.
Ouais, et puis donc gagner contre Niort qui est déjà condamné, ça permettrait à Guingamp de franchir la barre des 50 points, de se rapprocher aussi peut-être 17e, 8e du championnat.
La 6e place est possible encore.
Il y a 3 points de retard pour Guingamp par rapport au 6e Sochaux, mais il y a 3 clubs aussi entre les deux. Il y a Saint-Etienne 49 comme Guingamp, Grenoble 51 et Paris FC 51. Mais on sait que le dernier match, c'est à Grenoble. Donc c'est la possibilité de les passer aussi sur la dernière journée. Donc voilà, le challenge il est là. Vincent Manceau le disait, l'objectif c'est la 7e place. Guingamp qui avait fini 6e l'an passé. Voilà, déjà se maintenir quand on est 11e budget de Ligue 2, se maintenir là dans le top 10 de Ligue 2, c'est déjà intéressant. Même si c'est vrai que dans le bilan de la saison, on sera forcément un peu chafouin parce que les 2 premiers mois nous avaient fait espérer un peu mieux.
Oui, puisqu'il y avait de l'ambition qui était apparue aussi par rapport à la fin de saison dernière notamment. Ouais. Mais bon,
il y a de l'ambition, j'irais surtout de l'engouement. L'engouement des supporters. Mais du côté du club, on a toujours. Oui, parce que ça s'enflamme vite.
Dans les deux sens.
Mais du côté du club, ils ont toujours dit essayer de faire mieux que l'an passé. Alors là, bon, ça ne sera pas mieux en termes de classement, mais ça sera plus ou moins la même chose. Donc déjà, se stabiliser, c'est une bonne chose. Après, il faudra prendre les bonnes décisions en termes d'effectifs, en termes de fonctionnement, peut-être aussi interne, pour que Guingamp puisse exister un peu plus et un peu plus longtemps dans le haut de tableau. Parce que l'année prochaine, il me semble qu'il y aura retour des barrages et des play-offs.
La 5e place. Les 3, 4, 5 là, pour jouer les play-offs, barrages de Ligue 1.
Il y aura un peu plus d'enjeux dans la fin de championnat pour ceux qui sont à la 5-6e place ou même un peu en dessous. Bon, il est 20h30, c'est terminé pour le magazine des déchaînés et du football. On le rappelle, donc Guingamp-Niort, prochain match sur Radio Bonheur, vendredi soir, vendredi à 20h45. Et puis on se retrouvera également samedi soir pour la 37e et avant-dernière journée du championnat de Ligue 1 avec tous les matchs en simultané aussi à 21h avec notamment Marseille, Brest et Clermont-Lorient également sur les ondes de Radio Bonheur. Et puis messieurs, on vous retrouve demain matin dans la quotidienne à 8h40. Bonne soirée.
Bonsoir.
Merci d'écouter Radio Bonheur. Chaque semaine, Radio Bonheur est écouté par plus de 225 000 personnes en Bretagne. Sondage Médiamétrie Média Local en habitude d'écoute, 225 600 personnes, auditoire semaine, Radio Bonheur en Bretagne, septembre 2020 à juin 2022, du lundi au vendredi, 13 ans et plus. Merci aussi à tous ceux qui nous écoutent en dehors de la Bretagne et dont Médiamétrie n'a pas comptabilisé l'audience en dehors de la Bretagne.